De la bougie magique. En 1992, souvenez-vous, ces images ont fait le tour des télévisions du monde. Des milliers de yogis sont montés à l'assaut de la mosquée d'Ayodhya avec des cordages, des piolets et des explosifs. Sous les yeux impuissants de la police indienne, la mosquée a été détruite en moins de 6 heures. Cette mosquée, Babri Masjid, était la mosquée de Babur, qui fut le fondateur de l'Empire moghol au XVIe siècle. Elle fut, paraît-il, édifiée, mais on n'a aucune certitude, sur les ruines du temple où naquit le dieu Ram, héros du Ramayana. Petit retour en arrière pour comprendre comment des Indiens, des Hindous, des yogis, c'est-à-dire des sages théoriquement, en sont venus à démolir à coups de piolet et d'explosifs une mosquée supposée être bâtie sur le lieu de naissance d'un dieu. Énoncé en soi-même absurde. En 1985, la télévision nationale indienne, Doordarshan, projette en feuilleton le Ramayana tous les dimanches. Très vite, les postes de télévision dans les villages, qui sont installés souvent sur les places, sont transformés en hôtels. Ils sont ornés de guirlandes, ils sont adorés comme des petits temples, et le Ramayana défile ces belles images sans effets spéciaux extraordinaires. Il n'y avait pas encore de morphing, il n'y avait pas encore beaucoup de techniques, il y avait du bricolage, et un bricolage génial. Ça dure 1 an et demi. Mais l'effet du Ramayana se diffuse grâce à la télévision dans le moindre recoin de l'Inde hindoue. En 1989, j'ai vu cela démarrer dans les rues de Delhi. Lal Krishna Advani, qui était à l'époque président d'un parti nationaliste indien violemment anti-musulman et raciste, entreprend ce qu'on appelle un yatra, c'est-à-dire un grand pèlerinage qui va de Delhi à Ayodhya. Il est dans une sorte de 4x4 transformé en lotus, il émerge du lotus, et le voilà qui part, suivi de militants. Ces militants apportent des briques, ils portent souvent des tridents car ce sont souvent des yogis, le trident est l'arme sacrée de Shiva, et le trident, hélas, des yogis, s'enfonce dans les poitrines musulmanes le long du pèlerinage. Il y a des milliers de morts, des pogroms de musulmans sur le parcours de ce foutu pèlerinage en l'honneur du dieu Ram. De 1990 à 1992, une intense propagande nationaliste au nom du dieu Ram et au nom du Ramayana dévaste l'extraordinaire tradition de la tolérance indienne. C'est d'abord un programme de destruction systématique des grandes mosquées moghols, à Mathura, à Bénarès, pour le motif qu'elles sont supposées avoir été construites sur les ruines hypothétiques de temples hindous. Je me souviens d'un vieux sadhu parlant à la télévision, un horrible type, à qui on demandait quelles preuves on pouvait avoir qu'il y avait sous cette mosquée un temple du dieu Ram, bien sûr, et qui a dit avec une arrogance extrême « Dig it, you will find the evidence ». Creusez, vous n'avez qu'à creuser, vous n'avez qu'à détruire, et là vous trouverez les preuves. Et c'est avec des arguments comme ceux-là, en transformant le polythéisme hindou en monothéisme meurtrier, on est arrivé à un seul dieu pour un parti nationaliste, et ce dieu, hélas, c'est le dieu Ram. Il n'y est pour rien, le pauvre. Mais le parti politique, oui. Jusqu'à une date récente, Lal Krishna Advani était vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur du gouvernement de l'Inde, et ce, jusqu'à la bienheureuse victoire de Sonia Gandhi. Ce n'est évidemment pas avec la complexité du Mahabharata qu'un parti nationaliste serait parvenu à ce sinistre résultat. Car souvenez-vous, dans le Mahabharata, il n'y a pas d'axe du mal, tandis que dans le Ramayana, hélas, il y en a un. Voyons donc le Ramayana dans sa neutralité mythologique, non reprise par la politique actuelle.
Oh.
Dasaratha, souverain d'Ayodhya, a 3 femmes et pas d'enfants. Il fait un grand sacrifice pour devenir père, et au même moment, il se trouve que les dieux sont attaqués par le brahmane sorcier et démon Ravana, roi du Lanka. Le Lanka est une île qui est l'actuel Sri Lanka. C'est un rakshasa, un mangeur d'hommes, mais un brahmane tout de même. Ayodhya est très au nord, presque à la frontière du Népal. Lanka est très au sud, c'est donc aussi un combat entre gens du nord et gens du sud. Les dieux, conduits par Brahma, comme d'habitude, vont en délégation demander à Vishnu de bien vouloir s'incarner pour faire le travail et les délivrer de Ravana. Donc quand le feu du sacrifice s'allume sous les yeux du roi qui n'a pas d'enfant, surgit au cœur des flammes un être divin qui tend au roi une bouillie magique. Sagement, le roi Dasaratha distribue sa bouillie. À la première épouse, Kausalya, il donne la moitié. À la deuxième, Sumitra, il donne la moitié de la moitié, ce qui fait un quart. À la troisième, Kaikeyi, il donne la moitié du quart restant, ce qui fait un huitième. Et le dernier huitième revient à la deuxième épouse, Sumitra. Les naissances se produisent dans l'ordre. Rama est le fils de la première épouse, c'est le plus plein de bouillie. Lakshmana et Satrughna sont les jumeaux de la deuxième épouse, et Bharata est le fils de la troisième, Kaikeyi. Et où est Shiva dans cette histoire? Quand il y a Vishnu quelque part, forcément, Shiva rôde. Eh bien, Shiva est dans Ravana, puisque ce brahmane mangeur d'hommes est un adorateur du dieu farouche. Les princes sont éduqués par un bon chapelain qui prend soin de respecter ce qu'on va appeler la hiérarchie de la bouillie. C'est évidemment Rama, le mieux soigné. À l'adolescence, Rama, prince parfait, subit sa première épreuve. Un saint ascète vient lui demander de l'aide pour le délivrer des démons qui l'assaillent, et pourvu de toutes les armes magiques, Rama surmonte aisément cette épreuve. Sur le chemin du retour, Rama et son frère Lakshmana, ils ne sont que 2, poursuivent jusqu'au royaume de Mithila, qui est une petite portion de l'actuel état du Bihar. On est toujours dans le nord-est de l'Inde. Car là se produit une de ces cérémonies que nous avons déjà vues. Le roi Janaka donnera sa fille en mariage à celui des prétendants qui parviendra à bander l'arc de Shiva. Tiens, Shiva. On se souvient qu'Arjuna a obtenu la main de Draupadi dans un mariage de ce type, c'est-à-dire un mariage par choix, un mariage choisi, et l'arc que doit bander le prétendant est celui avec lequel Shiva a menacé son beau-père, l'horrible beau-père qui ne l'avait pas invité à la cérémonie parce qu'il n'était pas assez propre ni assez présentable. C'est donc un arc illustre et magique, bien entendu. Quant à la promise, la fille du roi Janaka, elle s'appelle Sita et elle est drôlement née. Son père l'a vue sortir du sillon qu'il creusait avec sa charrue lorsqu'il préparait le terrain pour un sacrifice. Sita est donc née d'un sillon de la terre. Très bien, Rama se présente comme prétendant. On ne sera pas étonné de savoir qu'il bande l'arc de Shiva sans difficulté et que donc il épouse Sita très tranquillement. C'est alors que se produit le drame. Au moment où le roi va proclamer Rama son successeur, il a évidemment tout pour ça, entre en scène la troisième épouse, Kaikeyi, la mauvaise. Il se trouve que le roi, Dasaratha, a une dette envers elle, parce qu'elle lui a sauvé la vie en le soignant un jour qu'il était malade. Très imprudemment, le roi a promis d'exaucer ses vœux. Et c'est tout simple, la troisième des reines demande l'exil de Rama et sa destitution comme héritier. Si jamais le roi refuse, Kaikeyi se suicidera. Et ça ne va pas, parce que comme c'est une femme de caste noble, le roi ne peut pas accepter cela. Et donc à l'aube, le cœur serré, brisé, le roi cède. Et le prince Rama, l'héritier légitime, destitué, part en exil, d'un cœur assez joyeux, il faut dire, en compagnie de son frère Lakshmana, son préféré, et de son épouse Sita, qui ne veut pas le quitter. Désespéré, le roi meurt. Conformément à sa promesse, c'est le fils de la dernière épouse, le fils de la mauvaise épouse, Kaikeyi, qui est appelé à lui succéder. Il s'appelle Bharata, on s'en souvient, mais Bharata refuse, car lui c'est un bon héritier, c'est un bon frère. Au lieu de se faire couronner, Bharata place sur le trône les sandales de son frère Rama. et ce sont à ses sandales qu'il va demander tous les jours des instructions pour assurer la régence du royaume. Voici donc le trio Ram, Sita et Lakshmana en exil dans la forêt, dans le Maharashtra, près d'une ville qui s'appelle aujourd'hui Nasik, et pour 14 ans. Mais même dans la forêt, Ram, qui devrait être un parfait ascète, reste un guerrier. Il se trouve que toute personne qui a besoin de lui, que ce soit les animaux ou les hommes, vient lui demander de l'aide. Premier incident, la sœur de Ravana, qui est comme son frère une horrible démone mangeuse d'hommes, tombe amoureuse de Rama. Elle prend la forme d'une fille, une forme très séduisante, et elle essaye de séduire Rama, en vain. Pour finir, c'est en effet assez radical, Lakshmana, le frère de Rama, lui coupe le nez et les oreilles. Furieuse, il y a quoi ? La sœur de Ravana va se plaindre à son frère. Mais au lieu de se plaindre et de geindre, comme elle est plus maligne, elle lui parle surtout de la beauté de Sita, la femme de Ram. Elle lui en parle tellement que Ravana tombe amoureux. Et pour conquérir la belle, il lui tend un piège. Un piège assez complexe, il faut dire. Il demande à son ami Marika de se transformer en cerf doré, si beau ce cerf que Sita le voudra auprès d'elle. Elle demandera à son mari d'aller le chercher, c'est ce qui se passe. Puis, par un piège magique, Lakshmana entend la voix de Rama appeler à l'aide et il fonce. Et il se trouve qu'ainsi, Sita se retrouve seule dans l'ermitage, privée de son mari, privée de son beau-frère. Immédiatement, Ravana l'enlève et par les cheveux. Sita se retrouve dans le palais de Ravana, elle se retrouve dans le gynécée, enfermée, prisonnière, mais le démon Ravana ne veut surtout pas la prendre de force, il veut qu'elle cède de bon gré. Or Sita est parfaitement fidèle, c'est une entreprise absolument vaine, et donc voilà ce démon, on dirait Shrek, voilà ce démon qui se tortille au pied de la princesse en vain, nous savons qu'elle est parfaitement fidèle à son mari. Rama et Lakshmana, les deux frères, quittent leur ermitage et commencent à chercher leur femme et belle-sœur, et la cherchent dans la bonne direction car un faucon qui s'est vainement opposé au rapt au prix de sa vie a réussi à les prévenir avant de mourir. En chemin, Rama et Lakshmana rencontrent les singes divins, Hanuman et Sugrita, qui décident de les aider. Et c'est ainsi que nous découvrons dans cette grande épopée la présence admirable des singes. À Bénarès, la nourriture sacrée d'Hanuman. Hanuman n'est pas véritablement un dieu, c'est un singe divin. Mais beaucoup d'Indiens l'adorent comme un dieu. Mon ami Vir Bhadra Misra est grand prêtre du temple d'Hanuman à Bénarès, charge héréditaire depuis le XVIe siècle. Et c'est parce qu'il m'en a offert que j'ai pu manger la nourriture sacrée du singe Hanuman. Prasad est le nom de la nourriture sacrée de tous les temples. La nourriture d'Hanuman est un petit panier de feuilles de bananier tressées contenant de la pâte d'amande, de la bouillie sucrée, forcément, on est dans le Ramayana, il y a de la bouillie, et des bananes. Le temple, qui n'est pas sur le Gange, est une immense bâtisse à vocation caritative. Sur les quais, il y a un petit hôtel, très près de la maison de mon ami Vir Bhadra Misra, que tout le monde appelle Mahanji, c'est-à-dire cher grand prêtre. Et ce petit hôtel est dédié à quelqu'un qui s'appelle Tulsi Das, Monsieur Basilic, en quelque sorte, l'homme du basilic, immense poète qui rédigea la première version du Ramayana en hindi. On y voit les sandales du vieux maître, et j'y ai vu souvent la cérémonie du feu, qu'on appelle arati ou arti, et qui se joue au crépuscule. Le prêtre agite une clochette, puis il offre les cinq éléments, l'eau, la terre, le feu étant cercle de lampe que l'on fait tourner dans les airs, pour invoquer justement l'élément air, une queue de yak évente le tout, et enfin, admirable métaphore, une pièce de tissu représente l'enveloppement, c'est-à-dire l'espace lui-même. Au même instant, retentissent les conques sur le Gange, c'est un moment poignant. Et particulièrement poignant lorsqu'il se passe devant le petit hôtel de Tulsidas, immense poète. Mahamji Virbhadra Misra, qui est dans le civil ingénieur en dépollution des eaux et un grand militant écologiste, parle de Hanuman avec une foi profonde et avec des mots simples. Il dit que c'est un être bon, dévoué et surtout prêt à donner sa vie pour les autres. Voilà la vision la plus simple et la plus juste au fond de ce grand sage divin qui devient l'un des personnages fondamentaux du Ramayana. Qu'il soit un singe, c'est-à-dire un animal, compte peu, puisqu'en Inde, il n'y a pas de véritable césure entre la vie animale et la vie humaine. Il y a des animaux très méprisés, c'est le cas du chien. Le chien est censé être la réincarnation de l'âme des voleurs, et on le chasse à coups de pied, c'est une mauvaise réincarnation. Mais le singe a comme particularité d'être végétarien et donc non violent. Le végétarisme des singes, c'est-à-dire le fait qu'ils mangent surtout des bananes et des fruits, est en effet quelque chose d'essentiel pour l'âme indienne. Et qu'on veuille bien songer à ce que Rudyard Kipling a fait dans le livre de la jungle, avec le Bandar Log. Il en a fait exactement l'inverse. Certes, il s'agit bien de singes végétariens, il ne les a pas transformés en singes carnivores, mais le Bandar Log, dans le livre de la jungle, au lieu d'être un peuple qui aide, compatissant, au lieu qu'il y ait des singes bons, ce sont des singes débraillés, ce sont des singes agressifs, ce sont des braillards, et pour sauver le malheureux Mowgli de ce que peut lui faire le peuple des singes, il faut que le serpent Kaa vienne massacrer ces malheureux singes. Nous avons là deux visions tout à fait antithétiques du même animal. Pour l'occidental Rudyard Kipling, colonial, très indianisé certes, mais avec un esprit tout britannique, incarnation de Britannia Rule, le singe reste un animal mal poli, qui montre son derrière et qui montre les dents. Pour tous les Indiens, tous les Hindous, et même ceux qui ne sont pas Hindous, le singe, c'est d'abord la compassion, c'est Hanuman. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'on lui passe toutes ses bêtises. C'est une chose très frappante que la transformation du singe en animal de bonté, comparable en tout point au Christ quand il s'ouvre la poitrine et nous tend son cœur. Mais enfin, soyons justes. Hanuman est un singe divin, ne pas confondre. Il est certes l'incarnation du dévouement, mais il a quelque chose de divin. Il est aussi l'incarnation de la dévotion. Il a le cœur sur la main. Il a aussi quelquefois, je l'ai déjà dit, le cœur ouvert. Hanuman, sur les posters qui le représentent, s'écarte la poitrine et montre son cœur flamboyant, à peu près comme le héros Karna dans le Mahabharata se déchire la poitrine d'or, puisqu'il est fils du dieu solaire.